carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
La Fondation Jacquemart André et l'Institut de France célèbrent cette année le centenaire de l'ouverture au public du musée Jacquemart André à Paris et de l'abbaye de Chaly dans l'Oise. Collectionneurs avisés et passionnés, Nelly Jacquemart et Édouard André ont réuni au tournant des 19e et 20e siècles une des plus importantes collections privées de leur époque, comparable à la Wallace Collection de Londres ou à la Frick Collection de New York. Pour protéger l'intégrité des deux sites et les rendre accessibles au plus grand nombre, l'ensemble fut légué à l'Institut de France en 1912. L'année suivante, à la veille de la Première Guerre mondiale, les deux musées ouvraient leurs portes au public. Avec nous aujourd'hui à Canal Académie, Nicolas Sainte-Fargarneau, conservateur au musée Jacquemart-André, bien connu des fidèles de Canal Académie, qui est justement venu nous présenter comment, en 2013, 100 ans plus tard, le musée honore ses mécènes fondateurs et au programme de cet entretien, exposition, valorisation, restauration. Nicolas Sainte-Fargarneau, bonjour.
Bonjour.
Alors, la singularité de la collection du couple Nelly et Jacquemart-André est d'avoir justement accompagné leur passion de la collection à une véritable vision de l'art.
Oui, il y a à l'origine ce qui est finalement assez commun dans des milieux aisés de la bourgeoisie parisienne du 19e siècle, il y a le désir de rassembler des œuvres d'art. Mais je le répète, c'est quelque chose de très commun. Alors, ce qui fait la différence chez Édouard André, c'est qu'il a tout de suite une visée. Je vais vous donner un exemple qui va bien situer les choses. Si vous considérez les hôtels voisins du boulevard Haussmann, j'entends, dans lesquels vous avez souvent de grandes familles de financiers ou de banquiers qui travaillent au service du Second Empire, vous avez une aile, l'aile droite ou l'aile gauche de l'hôtel particulier, dans laquelle le maître des lieux présente ses trésors. Alors, pour rester dans le ton de l'époque, on peut imaginer qu'il y a un Botticelli, il y a un Rembrandt et il y a un Murillo. Hein. C'est le goût de l'époque. Et donc on pourrait très bien imaginer que Édouard André, à l'égal de ses pairs entre guillemets, ait réalisé le même projet. Et quand on regarde ce qui nous laisse d'abord comme collection et puis ensuite comme élément documentaire qui nous permettent de comprendre comment il a procédé, on s'aperçoit que son projet est tout autre et que dès le départ, il a l'ambition de constituer une collection de niveau national, pour ne pas dire international. Et aussi, très vite, il a non pas l'ambition de rassembler ce qui était dans la logique des choses autour de lui, une collection de peintures, mais qu'il veut recréer des atmosphères significatives, des temps d'exception, de la culture française, du rayonnement français. C'est le siècle de Louis XIV, c'est le siècle de Louis XV, c'est le siècle de Louis XVI, etc. Donc c'est ça son projet. Et à partir de là, c'est très étonnant, il va procéder à une opération qui consiste à déshabiller Pierre pour habiller Jean. Et comprenez-moi bien, ça relève ici d'un exercice qui est quand même assez surprenant. Il a cet hôtel particulier, gigantesque, qui a été conçu dans l'esprit d'en faire un lieu de fête. Là aussi, le jeune André ne doute de rien. Sa famille le destine à devenir ministre des armées. Il a lui-même fait une brillante carrière en tant que soldat dans l'armée impériale. Et il est bien logique que, en ayant quitté les bataillons et en rejoignant le Parlement français, il puisse espérer un jour très prochain devenir un futur ministre de la guerre ou ministre des armées. Donc, pour cela, il a besoin, comme on dit très vulgairement aujourd'hui, d'avoir une certaine surface sociale. Et l'hôtel est conçu comme le meilleur parc d'attractions de Paris.
Et il a cette attractivité aujourd'hui
Il l'a gardé naturellement, il en reste de belles traces, d'ailleurs des traces que nous allons essayer d'enrichir et d'améliorer. Mais si vous voulez, c'est le principe de départ est celui-là. Et pour en terminer avec ce que je voulais évoquer, ce qui est très surprenant, c'est qu'à partir du moment où la décision est prise chez lui de transformer l'hôtel en musée, il va progressivement se retirer de ses salons au fur et à mesure que ceux-ci sont transformés en salles d'exposition. C'est-à-dire que les réceptions qu'il donnait chez lui jusqu'alors deviennent de moins en moins nombreuses, de moins en moins fréquentes et surtout de plus en plus petites. Et puis à un moment donné où il n'y a plus de réception du tout parce que la collection a pris la place ses invités dans les différentes salles du musée. Ça prend même un caractère très surprenant puisque les derniers aménagements faits, ce sont les appartements privés.
Ah oui.
Et si vous devez comprendre ce que cela signifie, ça veut dire qu'il a privilégié le confort de la collection à son confort personnel. Bon, je crois qu'on ne peut pas donner de meilleur exemple de collectionneur et de muséographe que celui-là.
Oui, effectivement, la passion de l'art d'abord. Avant tout. Donc il y a des collections de pièces françaises, évidemment, mais il y a également des collections de l'art italien absolument exceptionnelles qui sont au musée Jacquemart-André, qui méritent évidemment le déplacement à Paris. Il n'y a pas que le Louvre, bien entendu, on le sait, mais vraiment ça vaut le déplacement d'aller vraiment voir les collections, pas seulement les expositions du musée, mais les collections. Et aujourd'hui, on va surtout parler justement des collections du musée. Quels sont les trésors de cette collection ?
Alors, si vous voulez, Édouard André réagit dans un monde qui a déjà fixé ses choix et ses priorités. Il est pris en main par le duc de Morny. Morny est le demi-frère de l'empereur et c'est l'un des plus grands collectionneurs de ce temps. Morny va réagir très rapidement sous l'influence des frères Goncourt et il va devenir un collectionneur acharné du XVIIIe siècle français. Alors, il faut que je vous livre une petite anecdote pour bien me faire comprendre. La Révolution française a vu un héros dans le domaine des beaux-arts s'affirmer. C'est le peintre David qui a été en quelque sorte le régent dans le domaine des beaux-arts pendant toute la période révolutionnaire, puis la période impériale. Et au fond, on peut dire que pendant quasiment la première moitié du XIXe siècle, et après la mort de ce dernier, son esthétique va dominer. Alors, vous le savez, le néoclassicisme, puisque c'est le style que l'on met en relation avec l'œuvre de David, c'est un style qui privilégie les sujets d'histoire, les sujets savants, c'est un style qui privilégie le dessin, la ligne, c'est un style sévère, et c'est quelque chose qui s'oppose totalement avec les fastes du rococo, qui était donc le style de la période Louis XV, de la période précédente. Donc, ce style-là va bien au-delà de la période impériale, et au fond, les critiques, les gens qui comptent dans Paris, dans les lettres et les beaux-arts, considèrent que le néoclassicisme est une espèce d'horizon indépassable. Donc, il n'y a pas de salut en dehors du néoclassicisme. Et voilà que les Goncourt disent, mais non, pas du tout, les charmes de Boucher, les charmes de Fragonard, les charmes de Watteau, naturellement, c'est absolument délicieux, et c'est tout l'esprit français, c'est le raffinement, la subtilité, la distinction. Donc tout cela, c'est notre esprit, il faut revenir à cette esthétique. Et Morny est l'un des premiers à mettre, si vous voulez, dans sa collection, à racheter des œuvres. Et il faut bien comprendre qu'à cette époque, acheter Boucher et Fragonard, ça ne coûte rien.
Ah oui.
Et non, ils sont tellement dépréciés, ces artistes, que au final, c'est pourvu qu'on ait l'œil à retenir les bons exemples, c'est assez facile. Alors, évidemment, à partir du moment où vous avez recherche, vous avez intérêt, et donc tout de suite, le monde de l'art comprend qu'il y a là possibilité de bonnes affaires, et donc évidemment les prix montent. Et quand Édouard André commence sa propre collection, il faut reconnaître qu'il va acheter assez cher les œuvres qu'il retient. Mais ce qui est certain, alors je pense aux Fragonard qui font partie de sa collection, je pense aux Chardin.
Oui.
Il a trois Chardin exceptionnels, hein, différents dans leur genre, mais exceptionnels. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Chaque fois, ces œuvres achetées en vente publique, ce sont des œuvres de provenance illustre et des œuvres d'art de la première qualité. Donc, la collection Jacquemart-André, pour vous dire, est sollicitée tous les ans par nos amis des musées nationaux lorsqu'ils organisent des manifestations, des rétrospectives, tout simplement parce que nous avons les meilleurs exemples dans cette collection d'œuvres relevant de thèmes ou de sujets qui les intéressent. Ça montre bien la qualité de cette collection, et je ne devrais pas en rester à l'exemple français. Hein. Nos collègues des musées, non seulement de l'Europe, mais notamment des États-Unis, n'hésitent pas, là encore, à nous solliciter parce qu'ils savent les richesses de ces collections. Alors ça, c'est Édouard André, essentiellement. Nelly Jacquemart, c'est, en fonction d'intérêts qui lui sont personnels, c'est l'Italie du XVe siècle. Et sa grande chance...
Mais là aussi, il y a quand même vraiment des pièces absolument exceptionnelles.
Oui, absolument. Donc, elle a su réunir, alors avec des moyens différents, puisqu'elle a organisé des voyages en Italie tous les ans, plusieurs chaque année, en visitant tous les grands antiquaires, en regardant ce qu'il y avait dans leur fonds, et souvent en retenant de très nombreux objets qui venaient rejoindre ses collections à Paris. Et donc, en 20 ans, on peut le dire, ni plus ni moins, elle a rassemblé une collection impressionnante, alors, qui tourne autour de la peinture, de la sculpture, des œuvres d'art, mais disons de la génération 1470. Pour être plus précis, à Florence, c'est la génération de Verrocchio et de Botticelli. À Venise, c'est la génération de Bellini et de Carpaccio. À Milan, c'est la génération, ça sera bientôt la génération de Léonard de Vinci. Donc c'est quand même très impressionnant de voir qu'elle a su acheter dans ses grands foyers artistiques les meilleurs exemples de ce que leurs écoles avaient produit. Et pour cette raison-là, évidemment, la visite des collections italiennes du musée Jacquemart-André est quasi obligatoire. Alors j'ajoute une chose, c'est que...
Je confirme.
Le choix qu'elle a fait, qui est un choix dans un second temps de l'exposition, il y a toujours un délai de latence entre le moment où elle achète et le moment où elle présente, parce qu'elle veut obtenir le meilleur accrochage possible. Et donc, ce moment de réflexion qui lui est offert lui permet... de définir le meilleur accrochage à son goût. C'est pas un accrochage scolastique. Cet accrochage ne relève pas des critères qui sont les critères que vous trouvez dans les musées nationaux. C'est son goût personnel qui la dicte, qui dicte
l'emplacement aujourd'hui actuel des tableaux.
Et nous avons respecté l'accrochage d'origine.
Ah oui.
Dans le jargon de notre métier, nous disons que nous avons un accrochage archéologique. Ouais. Les choses n'ont pas bougé. Mais évidemment, c'est capital parce que ça nous permet de percevoir quel pouvait être le goût, en l'occurrence, de Nelly Jacquemart, mais au-delà, le goût d'un grand collectionneur
parce
de la fin du XIXe siècle.
À portée d'œil, les Bellini.
Absolument. Et aujourd'hui, si vous voulez, surtout aujourd'hui, on n'imaginerait pas de les présenter de cette façon-là. Donc c'est très important de pouvoir faire
les
cette différence.
Les boiseries aussi, tout ça?
Tout est en place. Donc voilà, c'est le grand ensemble. Et alors ce que je voulais souligner également, c'est que puisqu'elle prend le temps de réfléchir et de faire une deuxième sélection, au final, vous avez beaucoup d'œuvres qui sont en réserve. Ça, c'est très important parce que, au fond, c'est une possibilité que nous avons de sortir des œuvres de réserve à l'occasion d'expositions, notamment, et de montrer des œuvres peu connues qui sont de la même qualité que celles qui sont en salle. Et elles sont, de la même façon, souvent demandées par les musées français ou étrangers.
À combien d'œuvres s'évalue la collection de peinture?
Pour la peinture française du XVIIIe siècle, c'est une centaine d'œuvres.
Ouais.
Pour la peinture italienne, c'est 150.
L'accrochage des collections actuelles, la part entre la réserve et...
Oui, alors pour la collection française, on a 80% des collections exposées.
Ouais.
Pour la collection italienne, c'est de l'ordre de 60%.
Ah oui, 60%.
Donc il y a beaucoup d'œuvres en réserve. Et si vous voulez, ce qui est très surprenant, c'est que d'habitude, ce qu'on met en réserve, c'est plutôt le second choix. Eh bien, dans le cas de Jacquemart-André, je ne vais pas dire le contraire, j'aurais tort de le dire, mais puisque nous respectons les volontés du donateur, à savoir Nelly Jacquemart, en l'occurrence, les œuvres en réserve sont celles qu'elle a voulu laisser en réserve. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le regard que les historiens de l'art portent sur ces œuvres a souvent changé et qu'on considère que ce sont des chefs-d'œuvre au même titre que les œuvres exposées. Alors c'est très commode de pouvoir dire, mais au lieu de laisser un trou vide sur le mur, parce qu'on nous demande une œuvre pour une exposition à l'étranger, on va simplement la sortir de réserve et ça ne dérange personne.
Et puis pour tout ce qui est tout ce qui concerne les sculptures et le mobilier aussi.
Oui, c'est du même ordre. C'est du même ordre. Et c'est très étonnant, parce que là encore, on a quantité de choses, d'œuvres de très grande qualité qui se trouvent dans nos réserves.
Alors pour fêter le centenaire de l'ouverture au public du musée, il y a un nouveau parcours même au sein du musée. L'accent est mis sur le parcours du centenaire, justement. Qu'est-ce que vous avez voulu donc faire exactement et sur quoi vous êtes-vous appuyé pour trouver une nouvelle façon de mettre en valeur ces œuvres?
Ça me renvoie à un souvenir personnel qui me touche beaucoup, parce que quand je suis arrivé il y a de cela quelques années au musée Jacquemart-André, je n'avais évidemment aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler l'accrochage d'origine, la présentation d'origine, pour une raison simple, c'est que comme le bâtiment était fermé au public, on avait tout remisé en réserve. Donc les salles d'exposition étaient vides.
Il a été fermé au public longtemps ?
Dans les années 1990, quelques années. Donc à ce moment-là, si vous voulez, beaucoup de choses étaient en réserve. On n'avait pas documenté de façon photographique, par exemple, la situation précédente. Et donc, en dehors des inventaires écrits, c'était quand même un petit peu compliqué de pouvoir se faire une idée exacte de ce à quoi ça ressemblait. Et il se trouve que, par relation familiale, j'ai pu rencontrer les descendants de l'avoué de Nelly Jacquemart, c'est-à-dire la personne, l'homme de droit, qui a réglé sa succession. Et quand je suis allé voir ses descendants, ils m'ont montré une malle dans laquelle j'ai trouvé quantité de documents qui, en fait, étaient des doubles de documents que je connaissais, c'est-à-dire les expéditions du testament de Nelly Jacquemart, les propositions pour le legs et les échanges de lettres. Mais tout ça existe aux archives de l'Institut de France, et donc j'en étais déjà averti. Là, je dois dire que j'avais été un petit peu déçu par cette consultation. Mais quand je suis arrivé au fond de la malle, que je découvre un lot de photographies en format A3, pour être clair, des photographies noires et blancs réalisées par la maison Bulose, qui sont des rectos et des versos de toutes les salles du musée Jacquemart-André en 1913. Donc j'ai l'état précis ce musée avant la passation de pouvoir à l'Institut. Alors c'est passionnant, je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre son intérêt. C'est passionnant parce que sur ces très grandes photos qui me donnent donc l'état des lieux et qui me permettent de savoir où se situent précisément les œuvres d'art, vous avez dans tous les salons des moquettes. À partir du moment où vous imaginez en 1913 que le musée Jacquemart-André ouvre au public, la question qui se pose est de savoir combien de temps vont supporter le pas du public, enfin ces malheureuses moquettes. Combien de temps vont-elles durer? Et puis si on les change, là encore, combien de temps ça va durer? Donc vous voyez qu'il y a une contrainte et une difficulté matérielle, et je découvre en lisant les comptes rendus qui sont faits par la direction du musée adressée à l'Institut, que finalement le choix est fait d'enlever la moquette. Et quand je consulte les photographies, les cartes postales que vous trouvez aujourd'hui sur les quais ou dans les bonnes boutiques, vous trouvez ces photographies Bulose passionnantes parce que vous avez donc des vues de toutes ces salles du musée. Vous apercevez que là aussi, vous avez eu des modifications qui ont été faites, mais je tiens à le souligner, avec l'accord des exécuteurs testamentaires. Tout ça a été négocié. Alors, autre exemple. Quand on ouvre les salles au public, vous avez jusqu'alors dans tous les salons des consoles, des bureaux, des tables sur lesquelles le couple avait l'habitude de laisser à portée de main, malheureusement, des petits objets précieux. Bon, il va de soi que malgré la surveillance qu'on peut avoir, la tentation est trop forte et on sait très bien comment les choses malheureusement peuvent se terminer. Donc dès 1913, la première direction du musée a dit on est obligé de retirer un certain nombre d'objets par mesure de sécurité. Voilà. Donc moi j'ai pu, si vous voulez, faire le point sur la question et à partir de là proposer à la commission de l'Institut qui contrôlait la gestion du musée, j'ai pu leur proposer un plan de remise en place de tous les objets qui ne présentaient pas de risque. Et aujourd'hui, on peut dire que le musée, tel qu'on le découvre en cette année 2013, il ressemble au plus près de ce qu'il pouvait être en 1913. Alors, le parcours que nous avons décidé, c'est un parcours qui est fait salle par salle avec les reproductions des photographies que j'évoquais à l'instant et des explications qui permettent de comprendre quelles sont les différences, sachant que le principe de base, c'est bien entendu de respecter la volonté du donateur.
Donc là, on a vraiment conscience du sens du théâtre, du couple Nelly Jacquemart et Édouard André, du sens du théâtre et du sens aussi de l'espace intérieur dont vous avez très bien parlé tout à l'heure pour des raisons sociales, mais aussi, j'allais dire, esthétique à l'œil.
Oui, bien sûr. La remise en place, si vous voulez, je me souviens très bien de commissions de l'Institut de France qui sont venues visiter les lieux au fur et à mesure que je remettais les collections en place. Et on sentait l'étonnement de chacun des membres lorsqu'ils constataient que des lieux qu'ils connaissaient bien, pour les avoir fréquentés, ces lieux qui étaient à la fois beaux mais très vides, désincarnés, à partir du moment où on les rhabillait en quelque sorte, en plaçant ici et là les œuvres qui n'auraient jamais dû quitter leur cimaise pour les tableaux, ou les commodes qui devaient s'appuyer sur les lambris de menuiserie, eh bien, ça reprenait un caractère chaleureux, qui était le caractère voulu par Édouard André, notamment, et par Nelly Jacquemart. Ça redonnait de l'intimité, et puis ça ouvrait sur un aspect très, très particulier qui relève de la réflexion d'Édouard André. Le président Bablon l'a évoqué dans un autre entretien, à savoir l'idée que Édouard André, président de l'Union centrale des arts décoratifs, ayant proposé à l'État républicain, une fois de plus, de créer un nouveau musée qui aurait été le musée des arts décoratifs, s'est vu opposer une fin de non-recevoir. Et avec son vice-président, qui n'était autre que M. Richard Wallace,
Mais oui,
vous voyez que tout se recoupe et se rejoint. Donc, tous les deux ont dit, mais écoutez, puisque c'est ainsi, nous tenons à cette idée, elle nous tient à cœur. Par conséquent, nous réaliserons ce musée des arts décoratifs chez nous. Et voilà comment on transforme l'hôtel particulier, le lieu de réception, en premier musée des arts décoratifs. Donc, pour la partie française des collections distribuées au rez-de-chaussée, l'aménagement se termine en 1892. Pour le musée italien qui est à l'étage, l'aménagement se termine en 1898.
C'est quand même très rapide.
Donc on peut dire que, vous voyez, c'est autour des années 90 que le passage de l'hôtel particulier au musée se fait. Et puis après, il n'y a plus grande modification. Je vous rappelle qu'à partir de 1894, Édouard André est décédé, que donc Nelly Jacquemart est seule, et elle va, en 1902, décider un nouveau projet. Très tardivement, elle apprend la vente du domaine de Chaly, et donc elle décide de s'emporter acquéreur. Elle a les moyens désormais, puisqu'elle a hérité de son mari. Et à partir de là, elle devient, la propriétaire de l'abbaye royale de Chaly. Et elle va renouveler à Chaly ce qu'elle avait fait avec son mari à Paris.
Alors, restons à Paris pour la restitution en l'état du salon de musique.
Oui, c'est une grande affaire.
Une restauration récente.
C'est une grande affaire et une chose assez curieuse, puisque là encore, je reprends les paroles du président Bablon, nous ne cessons de faire des découvertes. Et il y a à peu près un an, nous nous sommes aperçus que en 1890, pour les raisons que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire transformation de l'hôtel particulier en musée, Édouard André décide de démonter la cheminée monumentale qui décorait le salon de musique, c'est-à-dire la plus belle pièce de l'hôtel. Alors, je découvre des documents qui le laissent entendre. Mais là où ça devient extraordinaire, c'est que, un, je retrouve un calque dessiné par l'architecte de l'hôtel, Henri Parent, qui est, je tiens à vous le dire, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que c'est le seul document, c'est la seule élévation que nous ayons gardée de la construction de l'hôtel par Henri Parent. Autrement dit, le propriétaire, normalement, aurait dû recevoir tout le lot des plans que Parent avait dessinés pour la création de l'hôtel. Et il y a eu des difficultés, des mésententes. Et on le sait parce que là aussi, des documents et des lettres le montrent. Nelly Jacquemart, quelques années après, avait demandé à Parent la restitution des plans qui n'a pas été faite. Donc très peu de documents pour nous montrer la construction, la conception même du bâtiment. Et il se trouve que par hasard, le seul document sur lequel je mets la main, c'est justement celui que j'attendais, qui nous montre, alors non pas l'état définitif, mais un premier état, un état projeté de cette cheminée monumentale. Mais on comprend très bien que ça correspond à l'esprit de ce temps, avec un décor extraordinaire, En tout cas, un sens.
Elle fait combien de haut
11
à peu
mètres
près,
de haut.
Hein, voilà,
c'est 11 pour mètres de haut. Oui, non, c'est très surprenant.
C'est une pièce maîtresse de,
oui,
de l'espace.
Voilà. Si vous voulez, quand on a compris la place qu'occupait cette cheminée dans la pièce, on se dit tout d'un coup, en la regardant aujourd'hui, elle est complètement déshabillée. Et on comprend qu'il manque quelque chose. On ne pouvait pas l'imaginer parce que, voilà, on n'avait pas les éléments. Mais dès qu'on a compris ce fait, alors on en comprend la nécessité. Donc, première étape, le dessin qui est aujourd'hui restauré, je l'ai fait restaurer, il est dans nos archives. Deuxième étape, donc j'apprends par les archives le démantèlement de la cheminée et sa vente. Et j'apprends aussi...
C'est vraiment toujours une enquête. À chaque fois que je vous fais venir à Canal Academy, on découvre, grâce aux archives, au travail du conservateur, comment tout se
mais
construit,
se reconstruit. Je suis le premier à reconnaître qu'il y a un an et demi, j'étais à 100 lieues d'imaginer cette découverte.
Alors
deuxième étape, j'apprends le démontage de la cheminée et sa vente, et j'apprends aussi que juste avant, on a pris une photographie de la cheminée en place. Donc j'ai deux objectifs. Un, retrouver la photographie. Deux, retrouver les pièces, si elles existent encore, de la cheminée démantelée.
J'ose pas imaginer ce que ça représente, parce qu'une malheureuse cheminée de 2 mètres sur 3, quand c'est démonté, ça fait déjà des dizaines et des dizaines de pièces. Alors là, c'est
donc,
inimaginable.
Donc, je vous passe le détail.
Oui.
Mais je retrouve... Ça a été compliqué, je ne vous le cache pas. Il a fallu que je m'acharne, que je me dise que dans cette opération, je n'avais pas droit au risque 1%. Il fallait que ça soit 0%, c'est-à-dire que je ne pouvais laisser aucune piste ouverte. Donc j'ai tout exploité dans tous les sens. Et finalement, je mets la main sur la plaque de verre. Alors vous savez, quand je l'ai mis à la lumière et que j'ai tout d'un coup découvert une cheminée en place, j'ai tout de suite compris que c'était elle. Donc c'est extraordinaire. Voilà, je fais faire des tirages actuels et à partir de là, on peut examiner les choses de près. Alors, c'est passionnant parce qu'il y a non seulement la cheminée, mais il y a le tableau qui était sur la cheminée, il y a toutes les tentures de tapisserie qui sont autour. Alors on a retrouvé le fabricant qui est la maison Tassinari à Lyon, et donc on les a sollicités et voilà, c'est comme ça qu'on construit le projet, c'est-à-dire que petit à petit on est en train de préparer les éléments qui nous permettront le moment venu de reconstituer l'ensemble. Ensuite, il reste à retrouver la cheminée. Alors, étant donné que Édouard André avait l'habitude de travailler avec de très grands antiquaires qui eux-mêmes avaient déjà une clientèle internationale et notamment américaine, j'ai mené des recherches aux États-Unis pour savoir si... Pourquoi pas, dans une de ces grandes villas bostoniennes sur le bord de la côte, il n'y aurait pas l'une d'entre elles qui serait décorée par une belle cheminée de ce type. Je vous rappelle que ces mêmes villas sont décorées aussi avec des fresques de Tiepolo, comme celle de l'hôtel
Jacques-Marandré,
et que ces fresques au XIXe siècle étaient chez les Perrer, chez les Rothschild, autrement dit, dans de grands hôtels particuliers parisiens. Donc vous voyez, cette filière n'était pas absurde. Donc je cherche tout le monde. Et alors la chose la plus incroyable, je vais faire une référence de très grande valeur scientifique, c'est comme dans le secret de la licorne, le trésor qu'on est parti chercher à l'autre bout du monde, il dormait dans vos caves. Et que finalement, en ayant dégagé des amoncellements de vieilleries qui avaient été cumulé depuis plus d'un siècle dans une des caves de l'hôtel, je me suis rendu compte qu'au sol, il y avait la cheminée que je cherchais désespérément. Elle était là, quasiment intacte, et donc nous avons les éléments pour la remonter. Et donc c'est un projet qui va se faire, que nous construisons, parce que c'est compliqué. Il faut vous imaginer, il faut des accords non seulement internes, mais externes, et des financements également très importants. Voilà. Mais nous avons une perspective, on a les éléments pour le faire, la volonté, bien entendu. Et donc, ça devrait nous amener, si vous voulez, à restituer une salle de l'hôtel, parce que dans un état antérieur à l'état musée, mais c'est une salle, je dois le souligner, c'est très important, qui, dès 1913, avait perdu tout caractère muséologique. Donc je ne fais pas, comment dire, ni un contresens, ni une action contre la volonté et le testament de Nelly Jacquemart, puisque cette salle, au fond, elle avait été, il avait été admise qu'elle devenait une espèce de grand salon, salon dans lequel, d'ailleurs, nous continuons aujourd'hui à donner des réceptions, tout simplement.
Mais c'est pour ça qu'elle a été démontée ?
Il y a cette phase intermédiaire qui, à partir du moment où Édouard André veut accrocher au mur des tableaux, il a besoin,
d'un peu plus d'espace.
Voilà. Oui. Et donc, il enlève la cheminée. Voilà. Bon. Mais aujourd'hui, dans une salle qui est fréquentée par un public qui n'est pas le public...
c'est une des salles du rez-de-chaussée.
Voilà. Ça n'est pas, un public habituel à la fréquentation du musée. C'est un public de soirée et de soirée privée, j'ajoute. Et donc, on ne peut pas laisser de la même façon à portée de main, si vous voulez, des œuvres d'art qui risqueraient de souffrir d'un accident. Ça peut toujours arriver. Donc, voilà pourquoi cette salle, dès 1913, avait été en quelque sorte dégagée de toute collection d'œuvres d'art. Mais s'agissant aujourd'hui ce monument, le remettre en place, c'est redonner à cette salle un sens, un caractère qu'elle n'a plus depuis très longtemps. Et je pense que si nous y arrivons dans le délai que nous sommes fixés, eh bien on pourra dire que nous avons rendu à Paris une grande salle de réception dans le caractère Napoléon III, qui est quelque chose qui tout simplement manque aujourd'hui à Paris.
Oui, on n'a pas d'exemple similaire.
Mais non.
Donc on aura l'occasion d'aller rêver dans un salon de musique de voilà. 1876,
voilà.
Tel qu'il avait été conçu et achevé. C'est un beau cadeau que vous nous offrez là. Donc ça, ça fait partie de toutes les... l'ambition d'une belle revalorisation à l'occasion de ce centenaire de l'ouverture
au public. Exactement, c'est le projet centenaire, si vous voulez. Cette date très importante pour nous est aussi une date qui nous permet de proposer un objectif pour les années qui viennent et qui nous permettra, on l'espère, de donner encore plus de qualité et d'intérêt à la visite du musée. En rappelant à la fois ce double aspect, hôtel particulier comme grand musée des arts décoratifs.
Merci Nicolas Sansargarno d'être venu nous présenter les collections de ce musée, le musée lui-même, la demeure Jacquemart André, cet exemple architectural si original du 19e siècle parisien, et de nous le restituer également par votre travail. Merci beaucoup et à bientôt.
C'est moi qui vous remercie.